Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui a commencé en tant que sage-femme pour devenir aujourd'hui une très très grande pointure du leadership médical à l'international. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Tissem Nourlil, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que la Tissem.
Alhamdoulilah, ça va. J'espère, comme je t'ai dit, je te remercie énormément pour tout ce que tu fais pour la femme marocaine.
L'Alertech.
Et je suis fière de participer aujourd'hui dans ce partage.
Arbechlik, la Tissem. C'est grâce à la femme, justement, grâce à sa générosité, à la femme marocaine, sa générosité, son authenticité, que ces produits continuent, que ces podcasts continuent et sont nourris à chaque fois. Alors, la Tissem. Si on devait te mettre une casquette, et je sais que beaucoup de femmes me disent on n'aime pas les casquettes, mais toi, tu es une spécialiste du marketing et du leadership.
Exactement.
Si on devait, parce que là, tu fais tellement de choses.
Oui, oui, alhamdoulilah.
Oui.
Pour la casquette, moi, Anna, je te parle un petit peu de mon parcours.
Bien sûr.
Il n'y a pas que le marketing et le leadership. Mais aussi, moi, j'étais sage-femme et j'en suis fière d'être sage-femme d'État. Donc, j'ai commencé ma carrière avec les femmes, d'aider les femmes. Et j'ai beau donner en tant que sage-femme. C'est un beau métier au Maroc dans l'absolu.
Ouais.
Et dans l'absolu, je dis et je précise, on a besoin encore de beaucoup d'efforts. Pour cette catégorie de professionnels de santé. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer. Comme tu sais, il y a en même temps une rage à l'intérieur qui m'a poussée à changer et à me reconvertir pour un épanouissement personnel. Mais aussi bien, les conditions ne m'aidaient pas pour rester dans le rural, aider les femmes. J'aurais bien aimé si les conditions étaient là, j'aurais bien aimé de continuer ce beau métier.
Alors, justement, de sage-femme aujourd'hui à justement une grande professionnelle de la stratégie et du leadership médical, tu es restée dans le domaine du médical. Comment tu as fait le saut? Pourquoi tu as fait le saut? Parce que là, tu dis, j'aurais aimé rester, mais les conditions ne m'aidaient pas. Et j'ai compris que tu avais commencé dans le rural, que tu avais adoré.
Exactement.
Tu parles de quoi exactement?
Les conditions, tout ce qui est infrastructure, le matériel, les moyens ne m'aidaient pas. Et après, j'étais enceinte, tu comprends, avec les hormones et tout.
Ouais.
Et les gardes de nuit, je ne pouvais pas énormément, je ne pouvais pas continuer. Et après, je suis restée, j'ai fait ma maternité. Après, j'ai eu le déclic pour recommencer ma carrière, recommencer mes études à zéro. Donc, j'ai intégré une école de commerce dans laquelle j'ai eu mon master en administration des affaires. Donc, j'ai recommencé à zéro.
À zéro. Le NCG et après, la LISCAE.
Exactement. J'ai eu un autre master qu'on appelait avec l'association AMBA de l'ISCAE, toujours dans le management et le marketing de la santé.
Uh-huh.
En même temps, entre-temps, j'étais en master à l'ESCG. J'ai pensé à un métier qui va relier entre mes deux casquettes, si tu veux,
et passion
médicale et commerciale.
Ouais.
Donc, j'ai pensé directement à la délégation médicale. J'ai intégré une multinationale en tant que déléguée médicale bleue. Je faisais les terrains, même si je ne l'ai pas fait beaucoup. Donc, j'ai fait une année et demie. J'ai eu mon deuxième enfant en maternité. Et puis vite, j'ai eu une promotion en tant que chef de produit, Didier, marketing et tout. Et après, j'ai tenu une occasion en or, un programme qui a été lancé par cette multinationale, pour pouvoir faire une année de rotation dans les différents sites à l'international du monde avec six autres participants du monde entier. Il y avait la Jordanie, KSA, Algérie, US et Égypte. Et Abdullah, j'ai passé les sélections bien, donc au Maroc localement et régionalement, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, et je représentais la région. Donc j'ai dû me déplacer en Jordanie pour 7 mois et laisser mes enfants avec leur papa.
Comment ça s'est passé, Kidou Stiha?
Très difficile.
Ouais, je te comprends. Ouais.
C'était vraiment un dilemme entre une carrière professionnelle et l'épanouissement personnel et entre mes enfants.
Ouais. Chacun a un domaine. Ils avaient quel âge à l'époque?
J'avais Akram qui avait 12 ans, 11 ans. Et Camille, le petit qui est diabétique, type 1, il avait 2 ans.
D'accord.
Il avait 2 ans, une année et demie.
Ouais. Donc, c'est un dilemme terrible.
Exactement. La décision n'était pas facile. C'est grâce à mon mari, donc le support de mon mari, ma belle-famille et mes parents. Les parents, bien sûr, refusaient. Hein. Tu as des enfants, tu as un foyer à protéger, donc...
Tu dois rester.
C'est ton ambition, comprends.
Tu n'as pas le droit à cette ambition. Pourquoi? Fin briti tousli.
Exact. Fin briti tousli, ti ouli ouli ou drti dar ou kourtita madame mzienne. Pourquoi cette ambition? Fin briti tousli. D'accord, c'est grâce à mon mari. C'est grâce à mon mari que j'ai pu prendre la décision. Et que j'ai pu prendre la décision. Il m'a poussé à partir. C'est une occasion.
Magnifique.
Qui ne vient jamais. Ouais. Ça vient une fois dans la vie, donc il faut la saisir. Donc je suis partie, je suis restée 7 mois. Main gauche, les week-ends. Donc les week-ends, là-bas, c'est vendredi, samedi. Donc depuis jeudi, soir, je suis enfermée chez moi. Je les appelle en continu par téléphone, par WhatsApp. Et en même temps, j'avais des missions à faire là-bas. Et après, avec le groupe Kamel à l'international, j'étais major de cette promotion.
Magnifique.
Donc j'étais première, j'étais fière en tant que Marocaine. Et on m'a affectée après aux US, donc dans le site de cette multinationale aux États-Unis pour une mission marketing.
Alors qu'est-ce que tu as fait avec les enfants à ce moment-là? Blakblati, j'aimerais qu'on revienne sur ces 7 mois quand ils se sont écoulés, que tu es revenue au Maroc.
Oui, je suis revenue au Maroc.
Comment c'était les retrouvailles? Est-ce que tes enfants t'en ont voulu?
Pas du tout.
Non.
Au début, si. Mais après, quand ils m'ont vu, donc on s'est parlé toujours. Il y a la technologie aujourd'hui qui aide. Donc, certes, pas de touch. Tactilement, il n'y avait pas de contact.
Ils ne voulaient pas.
Oui, exactement.
Ils ne voulaient pas.
Mais après, petit à petit, je leur ai expliqué. Ils voyaient leur maman épanouie. Tu comprends, j'ai beaucoup changé. J'ai pris en maturité. L'expérience m'a beaucoup... moi, par exemple, quand j'étais au Maroc, je connaissais que mon mari qui fait les courses et tout. Ça m'a permis d'être autonome, donc... dès mon retour, j'ai pris les choses en main. Je suis devenue autonome, plus autonome, plus indépendante.
Ça n'a pas fait peur à ton mari, justement, de voir le changement, Fmaratou?
Un petit peu, par moment.
Par moment.
Par moment, je sentais ça. Oui.
En fait, tu sais pourquoi je te pose ces questions? Parce que moi, j'ai vécu la même chose aussi.
Oui. D'accord.
J'ai vécu la même chose il y a quelques années, en 2019, où je suis partie pour reprendre des études à l'étranger. J'ai laissé mes enfants. Et par contre, moi, mon aînée, elle ne l'a pas exprimé d'Ixaët, mais par la suite, alors je vais te dire, c'était en 2019, dernièrement, Aed, grâce à une psychothérapie, etc., Aed, elle a lâché, je me suis sentie abandonnée quand tu es partie.
Ah, d'accord. Très difficile.
Très difficile, ouais.
Bon, on est là.
On est là, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on est là.
On est là, exactement. Et ce qui reste, le plus important pour les enfants, c'est de voir leur maman épanouie.
Ouais. Et après, tu es partie aux États-Unis?
Oui, je suis partie aux États-Unis pour une mission en marketing. Et je suis rentrée à cause du Covid.
Oui. Alors, à obtenir l'été home, tu as encore laissé les enfants?
Exactement. Je les ai laissés. Cette fois-ci, c'était plus facile parce que j'ai eu l'expérience dans un pays arabe. Maintenant, pour eux, je pars aux États-Unis, c'était une fierté pour eux. Ils pouvaient venir chez moi, se déplacer chez moi. Et c'était plus facile pour les États-Unis qu'un pays arabe. Mm. Ils ne connaissaient pas même la Jordanie. Donc, à ce qu'ils connaissent le flou, ils ne connaissent pas où tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi. Mais aux États-Unis, c'est un plus peu ouvert. Donc, pour eux, c'était bien. Surtout pour l'aîné, le petit ne comprenait rien. Et pour mon mari aussi. Même les parents, c'était facile cette fois-ci.
Ils ont plus accepté.
Exactement.
Ouais.
Et après, je suis rentrée. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai pris le poste de directrice marketing au Maroc. Abdelah, j'ai pu faire des choses pour les patients marocains. Surtout en termes, il y a une polémique aujourd'hui par rapport au prix, au prix des médicaments et la disponibilité des médicaments. Et il faut savoir qu'on a beaucoup de maladies chroniques. Sur lesquels on n'a pas de traitement là. Mmh. Donc j'ai fait les mains et les pieds pour pouvoir convaincre et pour faire introduire des médicaments au Maroc, surtout dans les aires thérapeutiques de diabète qui est une maladie chronique. Et il y a beaucoup d'effets secondaires de la maladie. C'est la maladie des vaisseaux, quoi. Donc ça touche tout l'organisme. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu faire rentrer un médicament qui est très toléré avec un bas prix pour nos patients diabétiques et aussi, là je te parle des success stories, mais avec beaucoup de médicaments en parallèle, mais aussi en termes de schizophrénie. La schizophrénie, il faut en parler, il faut faire une session pour cette maladie. Malheureusement, il n'y a pas de prise en charge au Maroc de A jusqu'à Z. Et c'est l'entourage qui paye les pots cassés.
Mmh.
C'est l'entourage. On doit penser à aider cet entourage matériellement, psychiquement, moralement et prendre en charge le schizophrène qui pèse beaucoup pour la société en termes de macro, d'indices macroéconomiques et micro aussi. Donc un schizophrène, c'est une personne en chômage. Ça pèse au coût de la santé du Maroc. Donc, tout ce qui est hospitalisation et ressources humaines aussi. Donc, on parle vraiment de pharmaco-économie. Ça touche vraiment la pharmaco-économie du pays. Et on doit penser sérieusement à limiter les hospitalisations, à bien prendre en charge les schizophrènes et à aider l'entourage.
Alors,
ou les familles.
Justement, une question dans ce sens-là, l'Abtissem, c'est le fait que tu ne penses pas qu'au patient, mais tu penses à sa famille, le fait d'avoir de l'empathie. Est-ce que c'est en lien avec ton histoire aussi à toi familiale, la maladie de ton petit garçon?
Oui, c'était ça. J'étais vraiment touchée quand mon fils a eu le diabète et j'ai vécu ça de près. Donc c'est vraiment, c'est un drame, c'est une catastrophe. Quand on a un enfant ou une personne dans la famille, quand on lui annonce
une maladie chronique,
le diabète, une maladie chronique ou le diabète ou quelle que soit la maladie, donc c'était un peu ça. Et en même temps, je suis du domaine de la santé et aussi je sortais au terrain, je voyais comment nos patients souffrent. Soit à cause du remboursement de médicaments, soit à cause de la non-disponibilité, soit à cause d'un médicament qui ne répond pas à nos besoins réels au Maroc.
Mmh, mmh.
D'accord. Et l'accessibilité aussi. Donc, Sa Majesté le Roi a instauré un système de santé et l'assurance maladie obligatoire pour tout le monde. On est sur la bonne voie. Mais à l'époque, je te parle de 4 ans, 5 ans, en arrière, il n'y avait rien. Il y a des diabétiques qui ne prenaient pas leurs médicaments. Je pensais aux enfants, aux rurales, qui n'ont pas d'insuline, qui n'ont pas même de réfrigérateur pour où mettre l'insuline. D'accord. Donc, on devait penser à quelque chose pour aider un petit peu. Je ne suis pas satisfaite à 100%, mais un petit peu aider les diabétiques, aider les... Tous les malades chroniques aujourd'hui.
Absolument. Donc, l'Abtissem, ton leadership à toi, et c'est ce que j'ai constaté, c'est que finalement, c'est avant de rayonner, de faire rayonner son leadership sur les, sur l'environnement dans lequel on évolue, il faut d'abord que cette énergie émane de soi. Il faut d'abord se challenger, prendre conscience et se challenger soi-même. C'est toi, ça. Tu es sortie à plusieurs reprises de ta zone de confort dans des conditions qui n'étaient pas forcément favorables. Oui, jeune beaucoup. Maman, enfant avec une maladie chronique, l'environnement à part ton époux, et heureusement c'est Wessened, surtout pour une femme mariée, Wessened, c'est-à-dire que il aurait été en désaccord avec ta décision, est-ce que tu l'aurais prise quand même?
Oui, sans aucun doute.
Oui.
Sans aucun doute. Écoute, Yasmine, à part le destin, et c'est une voie qui est destinée à Maktoub, mais chacune de nous a une force intérieure, sur laquelle elle doit agir et faire sortir. Tu me comprends?
Oui, absolument.
Ah, tu m'aides sur ce point, s'il te plaît, parce que je sais que beaucoup de femmes marocaines ont une rage, mais ça reste dans leur tête, dans leurs sentiments. Et malheureusement, c'est canalisé autrement dans la cuisine, avec les enfants. Mais je suis sûre, chacune de nous, femmes marocaines, a un besoin d'épanouissement énorme. Énorme. Parce que nos mères, étaient des femmes avec une énergie exceptionnelle, et il y a beaucoup d'exemples. Donc il faut dégager, il faut avoir le courage, il faut pas avoir peur, il faut juste arrêter, à un certain moment il faut arrêter de réfléchir et de faire des projections sans action. L'action est importante, il faut prendre des actions dans la vie.
Exactement. Mais toi, en fait, la plupart de l'entourage était contre Mnrer, ton époux. S'il lui avait refusé, ça n'aurait pas pesé sur la balance.
S'il a refusé, non. Bien sûr, ça aurait été plus pesé sur la balance. Parce que la priorité, c'est la famille. Hein. Ça reste la famille. Mais je suis sûre que j'allais entreprendre quelque chose d'autre. Pas forcément le déménagement ou à l'international, mais ici au Maroc, j'allais entreprendre quelque chose d'autre pour faire sortir cette énergie.
Oui, parce qu'il faut qu'elle sorte.
Exact.
Il faut qu'elle sorte, exactement. Aujourd'hui, justement, quand on te parle de leadership féminin, est-ce que toi, tu crois qu'il y a un leadership féminin ou là, c'est les hommes, on leur dit pas, est-ce que tu as un leadership masculin? Mais
oui, c'est un leadership.
C'est un leadership. Mais c'est comme si la femme avait en fait avait besoin d'incarner le leadership masculin pour exister. Est-ce que toi, tu crois à ça ou bien? La femme a le droit d'exercer son leadership à sa manière en incarnant sa féminité aussi.
Oui. Moi, avant, je pensais qu'il y a un seul leadership, c'est les hommes qui font le leadership. Ouais. Après, la société d'Eli, on a créé un réseau qui s'appelle je ne veux pas dire le nom de la société, mais un réseau de networking féminin.
OK.
Leader, de femmes leaders. Et moi, j'étais ici championne au Maroc de ce réseau féminin. Alors, je ne te dis pas, Yasmine, j'ai découvert des choses. La femme, malheureusement, et heureusement avec ce partage et ces réseaux actuellement, on parle beaucoup de leadership féminin, ça commence à sortir. Donc, j'ai découvert que le leadership féminin est plus marquant que le leadership masculin. Quand la femme leader, il innove. Katbahar son entourage, katbahar la société, katbahar rafa. Quand on est leader, oui. Ou le leadership c'est inné, Donc, le leadership n'est pas vraiment les femmes de grand poste ou là, les femmes. On peut avoir même une femme au foyer qui leader.
Absolument. Et absolument. Et c'est ça l'idée de ces podcasts, c'est de dire finalement que le leadership n'est pas en relation avec, avec l'organigramme, avec les postes, avec les titres, mais c'est un rayonnement sur son environnement, un changement qu'on apporte. Le feu, l'énergie intérieure qui est en action.
Ah, c'est ça, c'est ça. Et on l'a découvert avec Anna Unti, on a découvert des histoires impressionnantes.
Ouais, ouais.
Impressionnantes. Et même moi, dans ce réseau, il y avait même avec moi, des ouvrières qui ont vraiment rayonné.
Magnifique. Tu dois me mettre en contact.
Bien sûr, quand tu veux. Quand tu veux pour le partage.
Berlik, Lala Ibtissam. Lala Ibtissam, en tout cas, ce que je te souhaite, c'est de passer une excellente fin d'année.
Merci à toi aussi,
2025.
À toute audience.
Est-ce que tu fais partie de celles qui mettent en place les résolutions de fin d'année pour démarrer ou là, talqaha fi dallah?
Là, les résolutions, c'est au quotidien.
Oui.
Au quotidien. On peut avoir des résolutions court terme, moyen et long terme. Donc, c'est pas à la fin d'année on peut pas attendre la fin d'année pour poser les résolutions.
Exactement. C'est une petite mode où ça fait. Mais tu as parfaitement raison, en fait. C'est ça. C'est Anna, la première fois, il y a très, très, très longtemps, peut-être 15 ans ou la 16 ans, dit que on ne parlait pas encore beaucoup de développement personnel. Et donc, moi, j'avais commencé à interviewer à l'époque des psychologues, etc. Et quelqu'un m'avait dit, oui, s'asseoir avec soi-même et se parler. Ça m'avait paru, mais tellement...
Étrange,
exactement. C'est le mot. Merci beaucoup. C'est le mot. Ça m'avait paru tellement étrange. Et quelqu'un qui avait dit, j'ai dit tous les jours, il faut s'asseoir avec soi-même. Et Gali Wacha, essaierai une fois par semaine, à tel ras, 10 minutes, fais le point. Et en fait, aujourd'hui, comme tu dis, c'est des choses régulières. Si ce n'est pas quotidien, c'est hebdomadaire. Voilà. Mais heureusement qu'on a évolué aussi grâce au développement personnel.
Alhamdoulilah,
Alhamdoulilah.
Oui, exactement.
Lala Ibtissam Nourlil, nahar mbrouk.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup,
Yasmine. Merci.
Très bonne fin d'année.
Arbi khalik, Lala. Bonne année à toi et au staff et à toute l'audience.
Arbi khalik, Lala Ibtissam. Nahar mbrouk, au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.